Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui fait de la télékinésie avec les chats. Yeah! Bonsoir à tous, bonsoir Thio, on se fait une émission à l'ancienne, on a viré Tizak, il nous gonflait.
C'est comme ça, hein. Je veux dire, il est arrivé, il s'est créé un territoire conquis, et puis bon, ben voilà, il a pas fait l'affaire, et
voilà, tranquille quoi. Bah, ce qui fait qu'on est tranquille, qu'on va peut-être retrouver un rythme un peu plus... Pas de chanson cette fois, dans cette émission.
Déjà, ça va pas chanter, en plus, il y aura une bonne ambiance, parce que bon, faut dire ce qui est quand même, il faut une ambiance pourrie quoi.
Ouais, oui. Ce qui est bien, c'est que c'est le seul, enfin à part moi qui fait le montage, qui écoute nos émissions, parce qu'il aime bien s'entendre. Donc il saura les saloperies qu'on a dit sur lui, tu vois. Ça aurait été toi qui n'étais pas là, tu l'aurais jamais su, mais bon.
Si, parce que la seule émission où j'étais malade, rappelle-toi, je l'ai écouté, parce que justement je n'étais pas là.
Tu t'es dit qu'est-ce qu'ils vont dire comme saloperie sur moi. Qu'est-ce qu'on va dire?
Non, parce que du coup, je n'avais pas à m'écouter moi, parce que moi même pas.
Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va dire nous dans cette émission? On va faire une petite rubrique express, on va vous parler de deux choses rapidement, dont on a déjà peut-être sans doute j'imagine parlé un jour. Dans nos chroniques, on va vous parler du Sourire de Mao, de Berceau d'Assassine, de Lock and Key, de Souvenirs de Moments Uniques. Notre splash page sera dédié à 100 Bullets, qui atteint sa fin 100 Bullets, et qui est vachement bien.
Pardon.
Nous accueillons pour une carte blanche Cobal, qui fera sa première apparition. Enfin non, il était déjà apparu dans notre émission des 1 an, des 2 ans, qui va nous faire un petit sujet sur Spirou et Fantasio, un petit sujet qui sera en 2 parties. Online, on continuera à vous traiter d'une petite pépite que j'ai retrouvée sur le net en BD. Et puis un hors-sujet forcément super intéressant, parce que on sait toujours de quoi on va parler quand on commence à enregistrer, parce qu'on est super au taquet.
Ouais, on a tout prévu.
Je crois qu'on va pouvoir commencer de suite avec notre Express.
Yeah. Express. Et donc, on a choisi de parler de Batman Silence.
Urban Comics ressort Batman Silence. Alors, Batman Silence, c'est une BD qui se passe avant les New 52, hein, donc c'était sorti il y a quelques années.
2002.
Voilà, avec deux grands auteurs qui sont Jeff Lubb.
Et Jim Lee.
Voilà. Jim Lee.
Avec, on va quand même dire les couleurs, parce que c'est quand même aussi bien.
Ouais.
Alex Sinclair. Ouais.
Jim Lee, qui, toi, t'as sorti ton BD Geste. Ah, t'es sûr.
Eh, ça va, j'assure, avec mon iPod, tu vois, je suis au taquet.
Donc, Jim Lee, franchement, en fait, ça faisait un moment qu'il n'était pas revenu au dessin. Il était très attendu sur du Batman. Son style avait commencé en plus à s'inspirer un petit peu, de prendre une veine un peu plus sombre, un peu plus noire, qui collait très très bien. Franchement, c'est une très bonne série. Bon, Jeff Lubb fait un peu la rencontre de tous les super méchants au fur et à mesure. C'est l'apparition du méchant qui s'appelle Hush, silence en français. Hush, qui était qui est un personnage qui a de l'importance dans le passé de Bruce Wayne, quelque chose qu'on découvre assez tardivement. En tout cas, Jimmy se fait vraiment plaisir à dessiner tout le bestiaire, on va dire, entre guillemets, de Batman. Et c'est une bande dessinée vraiment très très sympathique.
Et puis il y a aussi la petite liaison. Il y avait aussi la petite liaison avec Selina qui perturbe beaucoup Bruce Wayne.
Voilà. Oui,
mais c'était juste pour dire ça, mais je sentais que tu voulais parler de suite de Blackjack.
Blackjack, en fait le tome 9 ressort, c'est donc une réédition. Je pense que c'est la troisième. C'était d'abord paru chez Glénat, puis chez Kana. Là c'est une édition de luxe qui est, je sais pas chez qui, je crois que c'est Kana, j'ai un doute. Encore. Enfin bon, quoi qu'il en soit, oui. Blackjack.
Juste pour te couper, quand même, on fait aussi Cantina pour bébé en même temps.
Oui, c'est pour créer une sorte d'ambiance.
On s'est dit que quand on a fait le festival, il y avait des bruits de fond, il y avait des gens qui buvaient, qui chantaient. Et on s'est dit, il faut à chaque fois avoir un bruit de fond. Là, on a décidé donc Cantina pour bébé. Donc là, on a un petit de 11 mois qui est en train de demander à sa mère qu'elle se bouge parce qu'il a faim. Voilà.
Oui. En plus, elle se trompe, elle fait n'importe quoi, franchement.
Donc, du coup, on en était à Blackjack. Hein. On connaît donc tous le docteur Marron.
Voilà. Enfin, pas que par la couleur.
Mais le docteur, donc, qui voilà, fait des opérations impossibles, résout des cas à la Docteur House.
Ouais, en plus improbable.
Encore plus improbable.
Mais surtout une série très humaine où vraiment est mis en avant de grandes questions sur l'éthique, sur la morale. sur la médecine, jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour soigner quelqu'un. Parce que Black Jack a la particularité de ne soigner que les gens qui vont lui donner beaucoup d'argent. Mais c'est le meilleur.
C'est le meilleur, voilà.
Voilà. Il considère que si on veut vivre, on doit être capable de sacrifier tout ce qu'on a.
Parce que la vie vaut tout.
Voilà. La vie n'a pas de prix.
Et tout de suite,
les chroniques. On démarre avec le sourire de Mao. Tio, peux-tu nous faire un petit résumé de cette fantastique bande dessinée ?
Alors, tout de suite, je tiens à signaler que nous avons eu un léger problème de logistique, ce qui fait que nous allons parler vraiment du fin fond de notre mémoire et de notre substance blanche et grise. Alors, la substantifique moelle du sourire de Mao, c'est donc dans un futur
très proche.
Voilà, la Belgique s'est scindée en deux. Avec
les Wallons et les Flamands.
Voilà, avec donc une séparation des deux parties, quoi, hein, et un nouveau président donc qui a créé des sections de jeunes qui sont bien dans le mouvement du parti.
C'est des scouts, hein.
Des sortes de scouts qui font un petit peu aussi office de garant de la sécurité, qui font les manifestations, qui font aussi la sécurité dans le quartier, voilà, qui font pas mal de choses. Et donc
la belle jeunesse très active.
Voilà. Et là, le dirigeant de ce parti a eu une envie, c'est de proposer aux Chinois de racheter la momie de Mao pour l'exposer dans le nouveau musée qu'il est en train de faire construire par les jeunes délinquants qui sont en prison.
Oui, parce qu'il a lancé un nouveau programme où il fait travailler les jeunes délinquants pour aider la nation à prospérer.
Voilà. Et donc on va suivre l'histoire d'une scout qui est fan, parce qu'elle est asiatique, donc elle est forcément fan de Mao.
Et qui est fan du nouveau président.
Et qui est fan du nouveau président, tout à fait. Et on va suivre aussi l'histoire d'un jeune qui a un petit boulot, qui vit tranquillou, mais qui est un petit peu n'est pas un révolté, mais il est contre le pouvoir, même si il ne mène pas d'action radicale vis-à-vis de celui-ci. Voilà, il est, moi, il me plaise pas. Voilà, c'est tout.
C'est tout. Il est pas méchant. Et en parallèle, on suit aussi l'histoire, la mère du jeune qui fait des travaux sur une route.
C'est ça.
Et on suit en gros toutes ces histoires qui s'entremêlent, qui se mêlent plutôt pas mal. Parce que bien sûr, on va voir l'histoire d'amour impossible et interdite, le complot, les accusations. Et des choses très très malines dans la façon dont c'est construit.
Alors, au niveau du scénario, moi j'ai trouvé ça très très original. Il y a une construction qui est quand même vraiment fine, parce que on va avoir vraiment une imbrication des différentes parties qui va vraiment se révéler à la fin. Voilà. On va voir chaque petite avancée de chacun des côtés, de chacun des partisans. Et à la fin, on arrive à quelque chose qui est entier et qui est bien mené. Voilà. Donc,
plus une conclusion un peu surprenante, on s'y attend pas vraiment.
On s'y attend pas vraiment, mais voilà. C'est un bon bouquin. Bon bouquin, ça m'a bien plu.
Niveau du dessin, justement, tu as parlé un peu du scénario. Qu'est-ce que tu aurais un peu à dire dessus ?
Le dessin, ouais, moi, ça me fait penser un peu aux 4 races. Alors, je veux pas non plus dire que c'est un dessin moche, mais un dessin un peu rétro.
Moi, je trouvais qu'il y avait un peu cette approche à l'ancienne, mais on a quand même un dessin un peu dynamique, une mise en page moderne.
Ça me fait penser aux 4 races, vraiment dans le sens où un dessin qui est rétro, tu as vraiment l'impression qu'il a essayé de revenir sur quelque chose de d'un petit peu vieux, exprès, je pense, pour faire aussi une référence un petit peu historique par rapport à l'Allemagne, quoi.
J'ai pas du tout cette impression-là, quoi, sur le dessin.
Écoute, moi, c'était mon ressenti. Je l'ai vu un peu, voilà, comme ça. Après,
ok,
toi plutôt.
Non,
plus,
moi, je
plus
trouve qu'il y a un côté dynamique, un côté moderne. On est un peu dans ce dessin de nouvelle école franco-belge, un peu péchu, qui reprend bien sûr des codes anciens, mais qui s'est mis à jour, on va dire, entre guillemets. Moi, ça m'a bien plu. Voilà.
Je dis pas que le dessin n'est pas plaisant.
Mais disons que ça m'a. Je n'ai pas trouvé ce côté rétro, comme tu dis.
Bon, écoutez, faites-vous votre choix. Hein.
Donc, Michel Constant au dessin, Jean-Luc Cornette au scénario. Et c'est chez Futuropolis.
Et de quoi on parle tout de suite ? De souvenir de moments uniques. Hein ?
Souvenir de moments uniques. Par
Domas.
Domas.
D'ailleurs, vous avez vu sur notre site de Facebook une
dédicace,
splendide dédicace de Domas pour Pied-Pied.
Alors Domas, c'est un auteur moi que je suis depuis un moment parce que j'avais offert un de ses bouquins que je l'avais lu au passage hein, avant de l'offrir et que j'avais beaucoup aimé.
C'est un très bon choix ça.
Je fais un long voyage en train pour l'offrir. Et donc je voulais avoir un de ses albums parce que je trouve vraiment que ce qu'il fait, il y a une sorte de poésie de dans le trait, dans l'histoire, dans la narration. Et on m'avait parlé de souvenirs de moments uniques, et donc j'étais franchement très intéressé par celui-là. C'est une sorte de recueil, une sorte de carnet qui recueille des souvenirs, des petits moments, des choses importantes ou pas. Ça commence par quelque chose de très important, ça finit par quelque chose de très futile d'ailleurs, qui sont mis dans un ordre totalement achronologique, c'est-à-dire que c'est dans le désordre le plus total.
Tout à fait.
Mais ça crée une sorte de rythme, justement. Je pense qu'il a voulu privilégier un rythme dans la façon dont il raconte ça. Et voilà, on a les trucs du quotidien, des petits détails, des petits défis qu'on va se lancer. C'est un côté... Enfin, on a le sourire coincé tout du long, quoi.
C'est... Ouais, voilà, ouais. Je suis d'accord avec toi. T'as un petit sourire qui reste sur certaines étapes. Il y a des moments où... c'est autobiographique tout ce que raconte Domas, mais je pense que le monsieur tout le monde peut se retrouver dans ces différentes parties parce que tu seras d'un côté, tu seras de l'autre, tu auras fait un choix ou pas le même que lui, et du coup ouais, c'est plaisant à lire, ça se lit très très vite. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup, c'est assez contemplatif, t'as pas beaucoup de texte.
Ouais, puis il y a un travail sur le texte, moi que j'aime bien, c'est quand il s'amuse à intégrer le texte dans le dessin. Il joue beaucoup là-dessus. Il va vraiment travailler sur la mise en forme du texte pour l'intégrer dans le dessin. Il fait ça assez souvent. Techniquement, c'est assez particulier. C'est-à-dire que graphiquement, il a choisi une bichromie avec du rouge, en fait. Donc, niveau de gris et rouge. Et ça donne. Certains éléments vont se retrouver dans des tons plus ou moins rouges. Hein, et ça donne un certain dynamisme, permet de mettre en avant des détails, de jouer sur... il joue sur cette couleur et sur le code et sur ce qu'elle va signifier pour mettre en... C'est-à-dire qu'on va avoir d'un coup quelque chose de très noir et blanc, et puis d'un coup, paf, cette petite pointe de couleur qui va apparaître. C'est très bien fait, c'est chez la boîte à bulles.
La boîte à bulles contre-cœur, je sais pas si c'est la collection.
C'est la collection, je crois. Voilà. Donc, ça se lit assez vite, mais c'est vrai que...
C'est un joli recueil d'émotions. Voilà,
voilà. Franchement, je recommande, j'ai... Adoré.
Et là, donc tout de suite.
On va parler de Lock and Key, le tome 4.
Yes.
On a vu un peu comment on rattrape le fait d'être à la loose aujourd'hui. Alors, Lock and Key.
Alors, un petit rappel. Donc, c'est une famille. Donc, le grand frère, la grande sœur. Les Locks. Donc, le grand frère, la grande sœur, le petit frère, la maman, qui se retrouve dans une vieille maison dans le village de.
Lovecraft.
Ah ouais, c'était ça. Oh, il y a des choses faciles à retenir.
Ouais.
Et suite
à la mort, l'assassinat du père qui était méchamment agressé jusqu'à la mort.
Bah, un peu devant ses enfants d'ailleurs.
Oui, en plus.
Et donc du coup, ils ont découvert cette maison dans laquelle désormais ils vivent.
Une maison familiale
dans laquelle ils ont trouvé en fait qu'il y a des clés. Des clés, alors déjà dans le tome 1, 2 et 3, on a découvert différentes clés qui ont chacune un pouvoir. Certaines permettent de sortir de son corps en dehors de la maison, d'autres permettent d'ouvrir le crâne pour enlever ou pour rajouter
des souvenirs
ou pour ajouter des connaissances. Certaines
permettent d'ouvrir les portes.
Voilà, certaines permettent de se transformer, de changer de sexe, enfin, plein de choses.
Plein de trouvailles de clés.
Plein de trouvailles de clés, et donc nous sommes désormais dans le tome 4 avec... de nouvelles clés. Le personnage du méchant, là, ne me demandez pas le prénom, je suis désolé.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le méchant arrive à se faire libérer par les héros.
Dès le premier tome,
il arrive à se faire libérer du puits. Et son but, c'est de trouver une clé, qui s'appelle la clé, je ne sais plus comment. C'est une clé en particulier qu'il veut trouver. C'est la méga super clé. Et il pense que les enfants Locke vont l'aider. Et donc, il se fait passer. Enfin, au début, c'est une fille, mais il utilise une clé pour changer de sexe, pour devenir un mec, pour devenir leur meilleur pote.
Et pour draguer la meuf.
Pour draguer la fille. Et essayer de les suivre et de les approcher. Donc le loup est dans la bergerie, quoi.
Exactement. Et là, on va se retrouver avec des, comme les fils Locke utilisent les clés, bah, eux, pour s'amuser, pour faire des choses, pour aussi enlever des souvenirs qu'ils ne veulent plus avoir, ils vont proposer, enfin, la fille va proposer au gars de... bah ouais, elle se dit, je veux pas que je trouve ta tête pour aller voir tes souvenirs, parce que toi t'as vu les miens.
Là, bien sûr, il va pas être d'accord, parce que...
parce que lui, il a un peu des souvenirs qui sont un peu de tout ce qu'il a déjà fait.
Mais ils feront un arrangement plus après. Quoi qu'il en soit, c'est une BD qui était chez Minidi, qui a eu un parcours éditorial un peu complexe, c'est-à-dire qu'elle est d'abord sortie en format souple, un peu collection 100% de chez Panini, hein, dont on a l'habitude. Sauf que Minidi Graphics a eu un peu du mal financièrement... à tenir le coup, ils ont réussi à sortir un peu la tête de l'eau, sauf que pour ça, ils ont décidé de sortir des éditions un peu plus luxueuses, donc un peu plus chères. Pour le coup,
je trouve que la qualité est vraiment montée, est vraiment sympa, quoi.
Voilà, mais pour le coup, je trouve que ça reste quand même assez cher, quand même.
Ouais, mais c'est de qualité.
Ouais, je crois qu'il est à plus de 20 euros. Voilà. Il y a presque 5 euros de prix sur le prix de l'album, quoi. Et puis dans ta bibliothèque, c'est plus joli.
Aussi. Alors là, donc, vous assistez à une crise de Gaël aiguë. Une gaélite, ça s'appelle comme ça.
Je croyais que c'était la mienne qui faisait ça.
Non, en fait, quand il mange, c'est le seul moment où il est chiant, en fait. Hein. Là, c'est le moment où il dit « Je veux manger comme j'ai envie », et là, on lui dit que non, en fait, c'est nous qui décidons et pas lui. C'est un apprentissage long et douloureux, surtout pour nos oreilles. Et surtout si tu veux faire un enregistrement en même temps d'un podcast. Oh, il monte pas trop au décibel. Alors donc, nos personnages de Locke & Key sont arrivés. La fille donc a fait l'échange de sa mémoire avec le jeune. On suppose en tout cas qu'ils l'ont fait. Là, je spoil pas.
Alors, ouais, en gros, juste pour commencer, la situation de départ, ils sont dans cette histoire de couple. Il est en train d'essayer de trouver un moyen de trouver la clé. On a une première histoire qui est un hommage à Calvin et Hobbes.
Yep.
Où on est tout du point de vue du gamin, qui est vraiment magnifique.
C'est excellent.
C'est génial, un très très bel hommage à Calvin et Hobbes, très réussi. On a une histoire après qui nous montre que cette BD sera pas systématique. Et ça, c'est génial. C'est une histoire
systématique.
Bah, c'est l'histoire où chaque 30 jours, en gros, à chaque fois, il nous passe... une journée,
ouais.
Donc qui va prendre une ou deux cases pour définir la journée. Et là, on voit que sur un mois complet, ils utilisent des tonnes de clés différentes, des clés dont on n'avait jamais entendu parler, des trucs comme ça. Ils font pas de la découverte d'une clé quelque chose d'exceptionnel. Ils commencent à se dire, bon, c'est bon. En gros, ils partent pas dans le « Hey, la clé du tome ». Parce que c'est vrai que dans les premiers, c'était un peu ça. Chaque tome, c'était « On a découvert une nouvelle clé », etc. Et là, tout de suite, le scénariste, il sort de ça, quoi.
Clairement, surtout en plus que là, on va vraiment avoir une progression au niveau des trois enfants. Parce que donc le petit fait ses découvertes de son côté, vis-à-vis de la maison, vis-à-vis des histoires. Le grand devient un peu plus taciturne et parce qu'il lui arrivait quelques petits soucis, on va dire personnels, et donc il va un peu se balader, aller voir un ami qui est arrivé un petit accident, il va faire des découvertes qui vont permettre justement à toute la famille de progresser eux dans la compréhension de qui pourrait leur en vouloir. Et aussi à notre cher méchant de savoir peut-être comment est-ce qu'il va pouvoir dégoter sa clé.
La clé de la porte noire, qui permettrait d'ouvrir une porte vers le monde des ténèbres.
Ouais. Et là, la fin du tome 4, je vous assure, est assez...
Ah oui, parce que autant le méchant était bien infiltré, autant là, c'est encore pire. Donc un final qui laisse vraiment sur le cul, et on a une hâte d'avoir la suite. Et Milady, je vous donne les sous, même si d'un coup vous êtes cher, mais je vous les donne, vos sous. Parce que franchement,
l'histoire est vraiment super intéressante, c'est vraiment passionnant.
Voilà.
Sans compter en plus qu'au dessin, c'est moi je trouve ça tout simplement génial.
Alors Joey le scénario, hein, vite fait pour donner, au moins citer les noms. Et au dessin, oui, c'est énorme.
Voilà, parce qu'en plus il y a des clés qui permettent de grandir ou de rapetisser, donc du coup il y a des dessins qui sont absolument géniaux. Ça fait penser un peu à Gulliver, quoi.
Un travail sur la mise en forme, sur la mise en page qui est assez, qui est assez exceptionnel, en fait. C'est-à-dire qu'il va vraiment s'adapter à la thématique de l'épisode.
À la thématique de l'épisode et puis aussi aux clés.
Je pense que ça fait partie. Je pense que ça fait partie de ces séries qui doit rester sympa à lire en mensuel à l'américaine, quoi.
Ouais.
Parce que je trouve que scénaristiquement et graphiquement, ils jouent vraiment le jeu de tenter des choses, des expériences. Voilà. Donc on apprend beaucoup sur le passé des jeunes, là, enfin des jeunes, des parents, des enfants.
Le passé, le passé des jeunes, le... et puis même on va dire sur leur vécu actuel, quoi, des trois.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils font actuellement, comment ils le vivent, et ouais, là t'as très mal Tizak. Oui, Tizak est arrivé au fait.
Oui.
Hello. Voilà, c'est ça. C'est
et toi, t'as pas de micro. Toi. Donc voilà, voilà, une très bonne série qu'on ne peut que recommander. On a attendu longuement le tome 4, mais le tome 5 arrivera.
La série aux États-Unis, tu sais si elle continue elle,
je ne sais pas où elle en est aux États-Unis.
Eh bien alors, elle est où la veille technologique?
Bah ouais, je sais.
Des fois, la veille BDX ou la veille comics.
Donc une très excellente série qui va aussi vous glacer un peu d'effroi parce que ça fait un peu peur.
Mais c'est surtout voilà, il y a que 4 tomes donc ça peut être encore abordable de la commencer maintenant.
Allez-y quoi, commencez.
Commencez. Comme ça en plus du coup ça donne des sous à Milady, ça leur donne encore peut-être envie d'aller plus vite.
Voilà. Peut-être de baisser leur... Non, mais bon,
non, ça, ils baisseront pas leur prix, mais bon, ouais, au moins, voilà. Du coup, ils se retireront la tête de l'eau, peut-être qu'ils me feront encore une autre super publication comme ça. Voilà.
Donc, Lock and Key chez Milady Graphics, et c'est super bien. Nous allons maintenant vous parler de Berceuse Assassine, dans une ambiance un peu plus sereine, quoique nous avons remplacé l'enfant. Tizak nous a rejoint.
Ouais.
Mais comme il n'a pas lu Berceuse Assassine, il peut fermer sa gueule et on va continuer comme s'il n'était pas là.
Surtout, c'est que comme il a oublié son micro, on est à deux sur un micro. Ça fait aussi, tu vois, t'adores, en bas du retour, c'est du roots, quoi.
J'aime beaucoup.
Ouais, on a pas de micro, on a pas de BD.
C'est super agréable d'avoir sa barbe qui se frotte contre la barbe de l'autre.
Berceuse Assassine, une bande dessinée de Philippe Tom au scénario et Ralph Meyer au dessin. Un grand classique, nous allons vous parler de L'Intégrale. C'était une série qui était sortie en 3 volumes. Chez, si je me souviens bien, je sais pas pourquoi j'allais dire Dupuis, je sais pas pourquoi.
Je crois que c'est l'intégrale qui est sortie chez Dupuis, mais la départ c'était chez Dargo, non?
Ou l'inverse. Je n'en sais rien.
Bon, et pardonne-nous, enfin voilà, c'est Dargo sur, il y a Dargo a fait un des trucs, en tout cas.
Donc, Berceuse Assassine, voilà. 3 tomes, le cœur de Telenko, les jambes de Martha et la mémoire de Dylan.
Alors, chaque bouquin va nous raconter, en fait, l'histoire, du point de vue d'un des personnages. Donc on a Joe Telenko qui est un chauffeur de taxi un peu glauque, un peu dans une vie de misère, une vie de merde quoi.
Oui.
Où il va voir son médecin souvent pour se faire prescrire des médocs pour faire passer un peu la douleur et aussi pour qu'on s'occupe de sa femme Martha qui va être donc le sujet du deuxième tome. Martha qui est suite à une maladie et handicapée.
C'est un accident.
Un accident, oui.
Oui, quand même. C'est assez fondateur.
Suite à... oui, excuse-moi. Et donc paraplégique et vit donc forcément dans un fauteuil roulant. Et le dernier tome va nous faire permettre de suivre l'histoire d'un dernier personnage, mais là je vais peut-être pas.
Là oui, là on est vraiment dans le spoil si on parle du dernier personnage. Donc, c'est un petit peu un récit qui va utiliser une figure de style. Hein. Clairement, on est dans un exercice d'un point de vue de la narration. C'est-à-dire que c'est à chaque fois les mêmes événements, enfin les mêmes moments, même si il va un peu plus loin pour certains, du point de vue d'un personnage différent. Donc au début, on voit Telenko, on est de son point de vue. C'est quand même un gars qui a l'air d'être un pauvre type sympa, hein, mais qui n'a pas de bol dans la vie, qui fait ce qu'il peut, etc. Il a un petit côté mauvais, mais...
Il n'a pas un côté très très cool, quand même.
Oui. Ensuite, on a le point de vue de sa femme, qu'on voyait un peu comme une...
Comme une mégère vilaine qui lui avait gâché la vie.
Ce qui n'est pas faux non plus.
Mais ce qui n'est pas entièrement vrai.
Puis ensuite, on a ce troisième personnage qui va encore bouleverser totalement le point de vue qu'on avait de l'histoire. En nous en montrant une facette qu'on n'attendait pas du tout, en fait. Voilà pour le scénario.
Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est que tout au long des 3 tomes, il arrive des événements à Joe et à Martha. Et tous ces événements, en fait, se retrouvent expliqués dans le 3e tome. Parce qu'avec le 3e point de vue, on va avoir tous les petites anecdotes que l'on avait dans les dessins des premiers.
Les petits détails.
Les petits détails qui sont totalement insignifiants et on passait à côté. ben, ces détails prennent tout leur importance et voilà, c'est là où on se dit.
Et à la relecture, tu te dis ah ouais, ça c'est bien foutu quoi.
C'était très très bien foutu.
Ben, c'est là qu'on se dit que le gars il avait prévu son triptyque dès le départ et que c'était bien pensé. Graphiquement, il y a une particularité au niveau du choix esthétique. On est dans des teintes délavées, d'une sorte de noir et blanc à tendance légèrement sépia. Et une présence du jaune, qui est la couleur qui est présente, pour mettre en avant certains éléments. Un peu comme dans Souvenir d'un moment unique, d'ailleurs, hein, avec le rouge.
Oui.
C'est un peu la même approche, même si là, on est vraiment dans du polar noir, quelque chose de sombre. Alors moi, je l'avais lu il y a très longtemps, et c'est vrai que quand je suis retombé dessus, je me suis dit, ah oui, le troisième tome, et je me souvenais plus du tout du troisième tome, et je ne savais plus du tout qui était le troisième personnage, et j'ai commencé à chercher dans tous les personnages secondaires qu'on avait vus. Dans les deux tomes, j'avais pensé à un et non. Je me suis planté. Je pensais au médecin.
Ah ouais. Ouais. Mais surtout en plus, c'est que moi, tu me l'avais vendu quand on est allé, on était à la Bellerie, notre super boutique, moins 5%.
Et les cordeliers.
À côté de la mairie.
Oui.
À Aix-en-Provence. Et c'est bon, on a fait le placement de produit.
Ouais, mais ils nous payent pas. On fait ça pour rien.
Si, ils nous font la bise et ils nous offrent le café des fois.
C'est vrai, souvent.
Très souvent.
Tout le temps.
Donc, j'en étais... voilà, tu me l'as vendu en fait comme disant, voilà, c'est une histoire géniale, il y a trois points de vue, ils te racontent à chaque fois la même histoire, mais en fait, c'est trois points de vue différents, c'est super bien monté, c'est super bien ficelé.
C'est un classique hein, quand même.
Et ouais, que je connaissais pas du tout. Et c'est génial. Je me suis régalé.
Ah ouais, il me semblait que t'avais été un peu...
Mais en fait, la première lecture m'avait un peu laissé un peu... On va rester sur le terme de circonspect. Et,
dubitatif.
Dubitatif.
Il y a un gros mot dedans aussi.
C'est pour ça que je préfère.
Non, mais dans circonspect aussi. Donc vas-y, continue. Il cherche.
Et je suis super content qu'il soit là quand même. Ça a changé le ton de l'émission.
Ouais, totalement.
Non, tu ne me touches pas, s'il te plaît. Tu ne t'approches même pas de moi. Et bien voilà.
Voilà, il t'a perdu là. Oui, donc tu étais dubitatif.
Ouais, un petit peu dubitatif, mais c'est vrai que finalement en y repensant, il y a quand même vraiment du génie dans le scénario, quoi. C'est vraiment très 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 bien écrit. Et au niveau du lien entre dessinateur, scénariste, oui. Quoi. Il y a vraiment eu, je pense, une très grosse réflexion au niveau des cases et au niveau du cheminement dans la narration.
Bon, Philippe Thom, on savait que scénaristiquement, il s'en sortait bien, qu'il n'était pas sorti de nulle part. Attention, je quiz. Cadeau, fait d'autre, Philippe Thom.
Thom de chèvre.
Jerry. Ah.
Thom et Jerry.
Alors, je vais vous dire les titres. Spirou et Fantasio, dans Thom et Jean-Ry.
Thom et Jean-Ry. C'est bien Thom et Jean-Ry.
Voilà, donc le petit Spirou derrière, Soda.
Ah, Soda, c'est bon.
Voilà. Donc,
c'est une bonne série à la télé, Soda, je trouve.
Rien à voir.
Oui, rien à voir, mais il parle de la télésérie télé, là.
Ouais. Elle est conne, mais bien.
Ouais.
J'ai jamais vu la
série. C'est très, très, très con, mais c'est très bien.
C'est très, très con.
D'accord. Donc voilà, qui nous habitue à de bons scénars et qui maîtrise bien les règles du polar. Donc, une excellente bande dessinée. Et oui, pour fêter One Hundred Bullets, on a décidé de faire sentir de balles. Il y a un problème, tu vois ?
Il y a eu que 80 coups.
80 ouais, coups. Mais moi, mes coups, c'est pas les mêmes que les vôtres, les gars.
Ah ouais, d'accord. On voit ça.
Et voilà un début vraiment à la con, et on a aimé ça.
Oui, on aime bien faire pense. Ça a réveillé ton fils, non ?
Très bien, ouais. C'est les blâmes, en fait, qui ont réveillé mon fils.
Voilà. Hein, c'est ça, d'avoir les balles plus grosses.
Bon, mais c'est pas ma faute, hein. C'est la nature qui m'a fait comme ça.
Voilà. Alors, par contre, vous partagez le micro, je vous demandais de faire bien gaffe, de parler bien devant, messieurs.
Oui, mais le problème, c'est que j'ai ma barbe qui s'en mêle dans la sienne.
Après, vous roulez des balles, vous faites ce que vous voulez, mais vous parlez bien dans le micro.
On se roule les boules ?
Oui.
D'accord, papa.
Voilà.
J'aime bien quand on se frotte la barbe comme ça.
Hundred Bullets, c'est une bande dessinée dont le 18e tome vient de sortir. Il arrive sur la page de cul.
J'ai ouvert en deux et... Hey, vous remarquez que la page n'est pas collée, les gars. D'accord.
Donc, 18e tome vient de sortir et conclut cette intrigue.
C'est comme un golf, d'ailleurs, c'est le 18e trou.
Les grands finales.
Le grand final. Alors, on va parler, vu qu'on est dans une page pêche, on va essayer d'aller un peu dans le fond, de l'édition plus originale, c'est-à-dire américaine. On va commencer par le pitch de départ et je vais demander à...
Vas-y, le pitch de départ. Donc, de 100 Bullets?
Ouais, je raconte la première histoire. Je veux dire, tu t'en souviens, j'imagine.
Enfin, je me rappelle pas le personnage exact, mais je rappelle le principe. C'est que, donc, un gars arrive dans ta vie.
L'agent Graves.
Tu as un peu une vie de merde. L'agent Graves arrive et te dit, voilà, je t'explique. Toute la merde que tu as dans ta vie, c'est à cause de la personne qui est dans cette enveloppe. Cette enveloppe est dans une mallette. Voilà. Tizak est vraiment très, très, très perversif, je trouve.
Oui. Ouais.
Je n'ai besoin de rien dire, et à l'arrivée, ils partent en sucette tout seuls. Et ils veulent me remettre ça sur le dos. Non, mais je rêve.
Donc,
il arrive. Fais du podcast professionnel, nous, monsieur.
On jette du dé.
Fais du podcast, déjà, on verra si c'est professionnel après.
Bon, je peux la finir, moi, c'est mon pitch de départ, ça va, j'ai quand même le droit d'y aller, non?
Ouais, vas-y.
Non, tu bouges pas, tu finis de lire, toi. Alors, donc Graves arrive avec sa petite mallette, il dit voilà. Il y a une personne qui t'a
foutu dans la merde.
Foutu dans la merde dans ta vie.
Voilà les preuves.
Voilà les preuves. Il donne donc les preuves à la personne. Et dans la mallette, il y a aussi un flingue et 100 balles qui sont intraçables, qui lui feront avoir aucun souci. Il peut buter la personne, il n'aura aucun problème.
Pire, quoi qu'il fasse avec ses munitions et ce flingue, il ne lui arrivera rien.
C'est surtout ça, c'est qu'il peut tuer qui il veut.
Et là, la personne a un choix. Qu'est-ce que je fais? Et donc, ça commence. La première personne que l'agent Graves va voir, c'est une jeune fille qui s'appelle... Vous avez le bouquin devant les yeux, j'ai oublié son...
Didzi,
voilà.
C'est la première?
Oui, c'est la première qu'il va voir. Ah ouais, c'est bien écrit. Je suis quasiment sûr que c'est la première personne.
Je crois bien que le premier personnage est un homme.
Cher commentateur du podcast, nous comptons sur vous pour vérifier.
Et nous dire si on dit une connerie. De toute façon, vous êtes là pour
si
ça.
Tu as dit une connerie.
Oui. Bon, quoi qu'il en soit...
Oui, parce que moi, je peux pas en dire, parce que de toute façon, je suis con là-bas, c'est ça que tu veux dire? C'est sympa, merci. Voilà, super.
Donc voilà le concept de départ. Alors, on s'attend à avoir une BD qui va nous raconter comment va réagir chaque personne face à ça, etc. Sauf que très très rapidement, on se rend compte qu'il y a tout un complot autour de ça, et que l'agent Graves ne fait pas ça pour rien. L'agent Graves fait partie d'une organisation... faisait partie d'une organisation de personnes influentes. Je vais éviter de trop spoiler, mais au moins révéler les grandes bases. C'est pas évident hein, dans cette BD, parce que c'est bourré de surprises.
Ça s'appelle le Trust, la grande organisation.
Voilà. Il est en gros un des chiens de garde hein, pour éviter que les patrons se fassent des crasses entre eux. Sauf que quelque chose s'est mal passé, et que maintenant il réveille des agents dormants en leur offrant le flingue. Alors pas tous, certains il va les recruter comme ça, pour voir comment ils réagissent, et en fonction de leur réaction, en fonction de comment est-ce que ça se passe, eh ben, il va pouvoir faire avancer sa petite affaire et son petit complot. Et là, ça devient très, très, très complexe. Il faut savoir que le scénariste avait dessiné un truc dès le départ, donc Brian Azzarello, c'est qu'il y aurait 100 numéros. Bah ouais, hein, il a 100 balles pour raconter son histoire. Donc 100 numéros de 22 planches, hein, c'est le format à l'américain, qui ont chacun été... répartis dans des recueils, parce qu'il y a des grands arcs narratifs qui vont s'intéresser à un personnage, à une intrigue, à un bout de l'histoire, en 13 recueils. Aux États-Unis. Le nom de chacun des 13 recueils, il y a un jeu de mots avec le numéro du recueil. Genre le premier, je crois que c'est Once Upon quelque chose, puis il y a tout, machin chose dans le deuxième, et ainsi de suite. Voilà, bon, on perd vachement ce truc-là en France, vu que le découpage a été fait très différemment. Toutefois, on peut noter que,
nonobstant,
le travail de traduction est un travail de grand dingue. Tu peux me retrouver le nom du traducteur, je crois que c'est Jérémy Manès, mais j'ai un doute.
Je crois aussi.
Qui a fait un travail de malade. Pourquoi? Parce que Azzarello a une grande tendance à utiliser des niveaux d'argot de fou furieux. C'est-à-dire que ces personnages... parle dans un argot, font des jeux de mots, s'envoient des vannes, et c'est super difficile.
Jérémy Manès.
Ouh! One point. voilà, difficile. Et je sais pas comment il fait. Je veux dire, quand tu lis certaines des histoires, tu te dis mais comment il a fait pour pas se faire passer cette information là, qui jouait sur un jeu de mots, sur une vanne d'un des personnages, sur machin qui se fout de l'autre, etc. Très rapidement, on va aussi avoir un grand nombre de personnages et on s'y perd. Alors moi, c'est le gros problème que j'ai eu dans cette bande dessinée, c'est qu'on a un scénario très riche, bourré de multiples rebondissements. Et au bout d'un moment, quand on les lit quand il sort, quoi, tous les 6 mois, on sait plus trop où on en est.
Bien sûr, on a fait voir un choc tétale.
Je prépare les photos si vous vous embrassez.
Et voilà, du choc tétale, j'ai tout perdu, quoi. Tu en étais où, toi?
On perd le fil.
Les personnages, on perd le fil.
On perd le fil, mais surtout c'est.
Tu l'as bien joué.
J'ai perdu le fil. Et parce qu'en fait, ça fait 50 fois que je le dis, en fait, les personnages, et ben, ils changent tellement de bord que ben, on sait plus, en fait, dans quelle équipe ils sont.
Oui, parce qu'il y a des agents triples, double, quadruple.
Qui bosse pour qui? Surtout en plus, avec des sous-chefs qui bossent pour plusieurs personnes en même temps, parce que. Ouais, j'essaie de ménager la chevelure chou, quoi.
Genre les frères qui bossent pas dans la même équipe, mais qui vont se donner un coup de main pour un cas particulier, parce que quand même ils sont frangins, mais que on sait pas. Et puis des personnages secondaires qui apparaissent dans les arrière-plans d'une histoire, mais qui sont les personnages centraux d'une autre. Ça, c'est un jeu que Azzarello aime beaucoup. Il joue beaucoup sur les détails. Il y a des tonnes
de détails. Sans oublier qu'ils ont tous quand même leur petite vendetta personnelle ou leurs petites affinités personnelles à gérer au milieu de tout ça. Sans compter la partie purement financière aussi, hein, parce qu'ils me font des affaires quand même à la base, ces gens-là. Oui. Donc c'est ultra complet, ultra complexe. Et c'est vrai qu'au fil des tomes, en tout, il y en a 18 en français, qui paraissent voilà, une fois tous les X mois, ça devient compliqué de rester dans le bain.
Et puis comme ils jouent avec un peu la lead de la société aussi, hein, pour les aider dans leur complot, leurs affaires, on ne sait jamais si le personnage qu'ils vont rencontrer est un personnage secondaire qui va servir à rien, enfin juste un petit détail, ou s'il va devenir important. Pour une raison très simple, c'est que tous les personnages sont très bien écrits.
Complètement.
Voilà. Donc le style de Mariano Azzarello, moi je suis tombé sous le charme, j'aime beaucoup. Mariano Azzarello, vous connaissez aussi, il avait fait des Batman, qui étaient pas mal. Parlons maintenant un peu de Eduardo Risso au dessin. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le style de Risso?
Ouais. Un choc tétal, j'allais dire noir. Voilà, maintenant tu peux finir.
J'allais dire ombre. Alors, j'aime pas particulièrement ce qu'il fait sur les zones plus claires, sur la partie colorée, pour faire simple. J'aime pas trop sa façon de gérer certains visages, parce qu'on a... Enfin, ça donne l'impression que le personnage n'est pas dessiné deux fois de la même façon. Pourtant, les expressions sont très intéressantes. Pourtant, les cicatrices sont très intéressantes. Mais je trouve qu'il est... Ce qu'il arrive à faire, c'est surtout donner l'ambiance, et cette ambiance, elle est donnée par les ombres, les contre-jours, les plans en noir, qui, eux, sont beaucoup plus intéressants, finalement, que ce qu'il fait dans la couleur, à mon avis.
Ouais. Voilà, c'est un avis fortement pertinent que je viens de donner sur le dessin. Je voulais aussi quand même noter les couvertures de Dave Johnson, je crois, qui sont certaines à tomber, parce qu'elles ont... Elles ont une symbolique par rapport aux histoires qu'elles illustrent. Elles ont une représentation.
C'est un vrai travail d'affichiste.
C'est vraiment un très très gros travail là-dessus. Là, je pense que Tizak veut dire un truc.
Ben justement, ça rejoint exactement ce que je pensais du dessin. C'est qu'on est dans la même ambiance. Il y a un vrai travail aussi sur le noir, sur l'ombre. On n'est jamais en pleine lumière dans le scénario. Ben, de la même façon, on est rarement en pleine lumière dans le dessin. On baigne vraiment dans cette ambiance-là, et les couvertures font de la même chose.
Alors Eduardo Risso est un auteur qu'on connaît, c'est un auteur argentin qui s'est fait connaître sur un peu du franco-belge aussi. Il avait fait une BD qui s'appelait Foulou, par exemple, qui avait pas mal fait parler d'elle. À l'époque, c'était il y a longtemps.
Fouillou.
Voilà, j'attendais la vanne.
Et là, en fait, on
avait la même.
On se regardait à savoir lequel des deux prendra le micro en premier. Hein.
Mais il a aussi beaucoup bossé,
Fouilla
en Argentine avec une BD qui s'appelait Je suis un vampire.
C'est la version féminine.
Et il a aussi travaillé sur du Alien, sur du. Oh, il a fait du Transmet aussi. Sur du Wolverine.
Du Transmet?
Ouais. Du Batman, etc. Enfin, c'est un dessinateur qui fait beaucoup de choses en général très sombres. Moi, ce que j'apprécie beaucoup chez Risso, c'est son travail de mise en page. Déjà, on peut oublier le gaufrier classique, il l'utilise très rarement. Les cases s'entremêlent, on a souvent... Mais là, c'est vraiment en lien avec le scénario. Là, il y a vraiment comment une imbrication entre le scénariste et le dessinateur. On a souvent une scène qui est vue et on a une voix off qui nous raconte totalement autre chose. Une façon de raconter des récits en parallèle, ce qui aide pas non plus à la clarté, hein, ça aide aussi à s'y perdre. Et un style graphique... on pourrait dire que le noir et blanc... il joue aussi les cadrages, les défauts de perspective qui fracassent pour faire tout rentrer dans le cadre au top.
Voilà, là sur la double page en question, le personnage ici, le tireur, donc qui a deux flingues, vise sur deux cases différentes qui sont sur deux pages différentes des personnages, dont une des deux s'est fait tuer par lui-même, et il tient en joue l'autre personnage qui lui-même le regarde en vis-à-vis dans l'autre case. C'est un truc énorme.
Oui, non, il est fantastique au niveau de la mise en page, cette mise en place est bluffante. Je le trouve... il y a un cadavre au passage, d'ailleurs, dans la mise en... Enfin, je le trouve bluffant. Et ça colle vraiment très bien à cette ambiance très, très noire. C'est souvent un petit peu... stylisé, très stylisé, dans le sens très simplifié. Et il a un dessin... On pourrait dire que le noir et blanc... ça passerait très bien en noir et blanc, mais je pense que les couleurs de Patricia Melville... aide vraiment à faire rendre plus clair, justement. Je pense qu'on se perdrait dans son noir si on avait que le noir et blanc. Et les couleurs, les ambiances, parce qu'elle joue beaucoup sur les ambiances, en fait, hein, Patricia Melville, pour rehausser ce trait-là et rendre plus lisibles ces cases dans lesquelles on se perdrait dans la noirceur s'il n'y avait pas la couleur. Voilà, moi je suis donf du dessin du monsieur. Je le trouve trop fort.
Je reste circonspect sur les visages.
Sur les visages, moi je trouve qu'il arrive à bien personnaliser tous ces personnages, vraiment leur donner un caractère propre. Alors l'édition d'Andred Bullets en France a été très... de 100, je vais me faire taper dessus si à chaque fois je me plante, a été très complexe. Il faut savoir que la série est sortie chez Soleil, au début.
C'est pas ce qui est écrit en bas.
Ouais, ça s'appelait À bout portant, ils avaient changé le titre. En format franco-belge. Je pense que ça doit donner pas mal quand même, en grand forme. Sauf que ça n'a pas marché. Puis, je crois que un autre éditeur encore avait essayé, je ne sais plus lequel, c'est sorti chez Panini, qui a donc lancé. Et puis, bon, quand Panini a perdu les droits de DC et donc de Vertigo, c'est Urban Comics qui a récupéré. Là, ils se sentaient un peu ennuyés parce que il faut savoir que Jérémy Manès, le traducteur, et boss chez Panini. Il est employé de Panini. Donc, il se disait que ça commençait si, bon, ils ont réussi à avoir un accord avec Panini. Ça s'est apparemment fait dans une entente cordiale. Pour que, les traductions qu'il avait déjà faites, Urban Comics les a rachetées à Panini. Donc, il pouvait continuer. Et les séries qu'il était sur le point de finir, dont Andred Bullets, Panini, a dit, vas-y, tu peux finir. Et je pense qu'il devait être très très content de finir Andred Bullets parce que quand t'as commencé à traduire un truc comme ça, ne pas faire les deux derniers volumes, tu dois bien avoir les boules. Urban, dans sa volonté de continuer à faire un peu de la BD de luxe, a fini la réédition d'Andred Bullets en brochet, donc couverture souple, mais en parallèle ressort en couverture cartonnée les premiers tomes. Donc ils font ça pour toute leur série, hein, les sculpts, tout ce qu'ils ont sorti chez Vertigo. Par contre, je ne sais pas s'ils respectent la pagination originale, s'il y aura 13 volumes pour la réédition. J'ai peur que malheureusement, ils soient contraints de garder le format en 18 volumes, ce qui est un peu dommage. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Allez, bon, maintenant on va peut-être pouvoir critiquer un peu ce final.
Petite queue de poisson à la fin, en même temps, comment est-ce que...
Alors là, il y a un regard de Thio halluciné, quoi, queue de poisson, mais t'as jamais mangé de poisson, tu manges du poisson pané, toi, c'est pas possible.
T'as une queue de poisson de quoi?
Alors, évitez de révéler...
Ça, pour toi, c'est une... Ah non.
Ah non, la dernière image. Là, ils sont en train de regarder la dernière image. D'ailleurs, ne feuilletez pas votre Andred Bullets avant de le lire.
Surtout pas, mais non, attends, c'est pas fini pas en queue de poisson, ça finit, c'est une apothéose, c'est... Un coup de maître, voilà, c'est un truc génial. On t'a amené pendant plus de 2000 pages, finalement, qu'à ce moment-là où tout finit parfaitement. ça finit parfaitement emboîté, ce qui ne veut pas dire que ça ne me convienne profondément et que j'aurais pas aimé. Ouais, autre chose, j'en sais rien. Donc c'est intelligent.
Une résolution plus franche, plus.
Oui, déjà, plus franche.
Oui, on a une fin qui, même si elle résout la plupart des choses, laisse un goût de, un peu ouverte, on va dire.
Oui, alors c'est intelligent parce que ça fonctionne plus, ça fait un demi-rebondissement, on va dire, à la fin, parce que bon, ça en est un sans vraiment en être un, au vu des 53 retournements de situation qu'on a tout au long des tomes. Au bout d'un moment, on ne sait pas qu'on est blasé de retournements de situation, mais bon, c'est un peu moins étonnant pour le coup. Mais là, voilà, quelque chose d'un petit peu plus définitif, résolu, voire kaboum, voilà, je sais pas.
Vas-y, tu argumentes, parce que là, t'as un regard,
on va pas spoiler, on va essayer de rester vraiment soft pour laisser le plaisir à ceux qui
ont
pas
trouvé. C'est compliqué. Hein.
Mais je trouve que voilà, t'as eu une avancée de tous les personnages, chacun a avancé ses petits pions petit à petit. Dans le grand final, t'as vraiment l'impression que ça y est, en fait, toutes les pièces de l'échiquier sont en place.
Même les personnages morts sont encore super influents, je pense à un personnage très important qui est Shepard. Qui est mort il y a quelques volumes et qui est encore super important, quoi.
Mais il est pas mort, en fait. Non, pardon, j'ai spoilé.
Ouais, enfin, c'est toujours compliqué. Oui, c'est vrai que les gens qui meurent, c'est pas très clair. Par exemple, Lono. Hein, combien de fois on a cru qu'il était mort?
Ouais.
C'est le gros bourrin du truc. C'est le mec, il est imbutable. Il s'est pris 40 000 balles et il s'en sort toujours. Undread Bullets, en fait, c'est le nombre de balles qu'il a pris dans le corps.
Voilà. Moi, en fait, clairement, je m'attendais à quelque chose de super important sur lui à la fin. Et il finit un petit peu version à la loose, quoi.
Un des membres du Trust.
Voilà, il y a un des membres du Trust que j'aurais espéré voir prendre un petit peu plus d'essor sur le final. Parce que il se trouve que c'est à lui que je me suis un petit peu plus attaché.
Ça m'étonne pas.
Ça m'étonne pas. Je l'attendais, celle-là, je l'attendais.
Le petit velours qui, avec sa sœur, enfin.
Moi, je trouve qu'il a un personnage qui est génialissime. Il a des petits côtés de Tony Stark en version ultra bad, hein, mais il a des petits côtés de Tony Stark que j'aime beaucoup, qui sont ultra fun à gérer, je trouve. Après, c'est mon goût personnel, hein, mais j'aurais aimé un petit peu plus sur lui, par exemple.
Ouais, enfin, les hommes de main,
il est un peu plus qu'un homme de main, lui.
Tous.
Il est dans la poche droite, lui.
Ouais. Bon. Est-ce que vous avez envie de relire tout?
Non, mais voilà, tu me laisses finir, parce qu'en fait, dans une partie, du coup, tu m'as raconté Shepard, tu m'as raconté que l'autre, il était à fond sur lui, parce que franchement, il a un corps de rêve et qu'il voulait se toucher.
Une petite mouche sur le menton.
Une petite mouche sur le menton, ça faisait kiffer. Parce qu'il fume la cigarette, en plus, en aspirant la fumée par le nez, en même temps qu'il ressouffle par la bouche. Vraiment un truc de fou, quoi.
Merci Mathieu.
C'est une superbe mise en scène. Tu te retrouves à la fin avec donc ce dernier tome tous les personnages qui sont
encore en vie,
qui sont présents et chacun va avoir un rôle qui va être essentiel.
Chacun à sa place. Il y a pas de potiche.
Et toutes les pièces tombent les unes après les autres. Ça te fait des coups de théâtre, coups de théâtre, coups de théâtre. Et à la fin, voilà, t'arrives à un truc qui, moi, je trouve est une fin qui sur le coup m'a laissé vraiment sur le cul parce que j'étais là, j'ai dit. C'était la fin évidente.
C'est une chute en apothéose.
Exactement. Et surtout, moi, je suis resté sur le cul et je me suis dit, mais ouais, c'est évident. Ça pouvait que finir comme ça.
Mais tu t'y serais pas attendu.
Exactement. C'est l'évidence, mais je ne m'étendais pas. Pour moi, voilà, c'est ça que je dis, la fin est vraiment un truc génial.
Je suis d'accord avec toi, voilà, sur le fait qu'effectivement, toutes les pièces s'imbriquent, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, tout fonctionne très bien. C'est très intelligent. Voilà. Après, c'est peut-être parce qu'on en attend toujours plus, parce que c'est extrêmement bien construit tout le long. Alors forcément, sur le dernier, peut-être que j'en attendais trop. Hein. Après, je pense que ça vaut le coup. Tu posais la question, et je pense que c'est essentiel de le faire quand on a aimé cette BD, de les relire là. En plus, en connaissant la fin, pour le coup, il y a certains films qui fonctionnent un peu comme ça.
Oui.
C'est ultra intéressant de les revoir une fois qu'on a vu la fin.
Oui, et puis là, pour le coup, tu vas te rendre compte que, mais le personnage qui est en arrière-plan, en fait, c'est lui, machin.
Là, clairement, il le fait beaucoup. On a dû le zapper un milliard de trucs au passage, vu les temps d'attente.
C'est très, très bien construit. Bon, une excellente série que Undread Bullets. Je pense qu'on va s'arrêter là. 18 tomes en cours de réédition, encartonné chez Urban Comics. Vous devez pouvoir trouver dans des bacs à soldes les premiers tomes en brochet chez Panini, qui
et
était
peut-être même chez Soleil, mais dans ce cas-là, je pense qu'on a les deux côtés en plus, c'est merde.
Ouais, non, mais les Soleil, ouais, non, oubliez, parce que là, pour le coup, vous avez que 3 ou 4 tomes, ça ira pas très loin.
Ouais, mais vous avez un truc en grand format.
Voilà, très très bonne série. Carte blanche à Cobal. Bonjour Cobal.
Bonjour.
Alors, tu vas nous parler d'un sujet qui me tient à cœur personnellement, mais c'est bien aussi d'avoir un petit point de vue extérieur. Tu nous as concocté un petit dossier sur Spirou et Fantasio. D'ailleurs, le titre, c'est Les Aventures de Spirou et Fantasio, oui. Qui est un dossier bah, que tu vas devoir bien nous condenser, parce que tu as un temps un petit peu limite, hein, on ne fait pas une émission spéciale. Vas-y. Que peux-tu nous dire un peu sur ce fantastique personnage?
Alors, tout d'abord, il faut savoir que j'ai réduit un peu la voilure. Je ne vais pas dire tout sur Spirou, parce que là, ce ne serait pas possible. Donc, ce ne sera pas vraiment sur le personnage, ni sur le magazine qui porte son nom, mais sur la série dans lequel apparaît le personnage.
Donc, d'accord, je vais passer sur la série peu régulière, on va éviter toutes les hors-séries et compagnie.
Voilà, exactement. Okay. Donc, le personnage naît en 1938, évidemment, puisque ce sont les 75 ans du personnage. Il naît en 1938 sous la plume de Rob Vell, c'est-à-dire Robert Velter, un Français, et oui, qui commence donc à publier les aventures de ce personnage dans le magazine du même nom. Il faut savoir aussi que donc, c'est une commande de Charles Dupuis. Les aventures du personnage. Le personnage, donc, c'est un jeune homme qui est roux, qui est habillé en groom, costume qu'il gardera très longtemps. Alors, l'origine de ce costume, c'est qu'en fait, Rob Vell lui-même était groom sur un paquebot transatlantique. Et donc il a gardé ce costume en tête lorsqu'il a dessiné Spirou, qui lui est groom, mais dans un hôtel, au Moustique Hôtel.
D'accord.
Donc par la suite, en 1939 apparaît Spip, le personnage donc du petit écureuil qui suit le héros. Qui ouais. Il faut savoir aussi que le oh putain, j'ai du mal.
Tu comprends ça, hein.
Tu couperas ça, les petits bouts qui dépassent. Il est aidé, donc Rob Vell est aidé au début de sa carrière par sa femme Davine, alors je ne sais pas exactement les détails, je ne sais pas si elle ancrait ou alors si elle faisait des crayonnés, mais en tout cas, voilà, ils étaient à deux pour le faire. Et il sera également aidé par un peintre qui s'appelle Luc Lafney, qui lui restera à Marcinelle. Puisque Rob Vell étant français, il envoie ses planches par la poste au fur et à mesure.
Oui, parce que les éditions Dupuis sont des éditions belges et que donc oui. Le magazine est un magazine belge qui était publié, il était déjà publié en deux langues, je crois, hein, en français et en flamand.
Oui, voilà, probablement ces deux langues-là.
Spirou, c'était Spirou en France et c'était Robedoz, c'est toujours d'ailleurs Robedoz pour les flamands.
Donc ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, vu la période, donc nous sommes en 1939 là, c'est relativement difficile pour la communication entre les deux pays. D'ailleurs Rob Vell va être mobilisé, envoyé au front, et il va continuer d'envoyer ses planches tant que ce sera possible. Alors, imagine un peu le trajet qu'ont dû faire les planches au milieu des lignes et tout,
oui.
Arriver jusque là-bas. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Gigi reprend un petit peu le personnage en 1940 lorsque Rob Vell est fait prisonnier.
Est-ce que prisonnier, il n'arrive pas à continuer?
Étonnamment, non. Puis Rob Vell reprend le personnage en 1941 jusqu'en 1943 où il vend le personnage aux éditions Dupuis. Donc là, du coup, Dupuis a les mains un peu plus libres pour gérer le personnage, en sachant que là, étant donné qu'il sera dessiné par Gigé, lui est sur place.
Donc Gigé, c'était un des dessinateurs un peu touche-à-tout du journal Spirou.
Voilà, c'était le dessinateur maison qui faisait notamment Valardi, je crois,
et,
Blondin et Cirage.
Ouais.
Et puis voilà. Lorsque Gigé reprend le personnage, il va lui adjoindre Fantasio, qui est un personnage qui n'est pas créé par lui, mais par l'un des autres piliers du journal Spirou, qui est Jean Doisy, qui a écrit à l'époque écrivait notamment Le Furteur, qui était la, un truc, une, des, qui était des chroniques plutôt éducatives dans le journal. Il écrit, il faisait, il s'occupait aussi du courrier des lecteurs et tout ça. Et il faisait tout ça sous la sous le nom de Fantasio. Et donc c'est J.G. reprend le personnage et le et l'incarne.
Et on lui prend son design, quoi.
Et reprend le personnage pour le faire apparaître dans les aventures. Donc Fantasio, c'est un peu le pendant rigolo de Spirou, qui lui est un personnage qui est beaucoup plus sérieux. C'est un peu le Fantasio, c'est le capitaine Haddock.
Sans l'alcool.
Ouais, voilà.
Ouais, ce serait un mélange de capitaine Haddock et de professeur Tournesol.
Oui, un petit peu. Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a ça également.
Il y a ce côté très inventif, plein d'idées géniales. Le gars qui va être toujours à fond sur les derniers trucs modernes à la mode et qui fait des catastrophes.
D'ailleurs, ce côté sera repris lorsqu'il y a eu le groom vert de gris. Enfin, mais là, on saute des étapes, mais il redonne ce côté foufou. À
Puis en plus, tu vas dans les hors-séries. Ah, ah, t'as dit que tu y allais pas.
Bon, donc ça, c'est les années 40, tout ça. Après, le journal se saborde parce que Charles Dupuis refuse de diffuser de la propagande nazie. En 1947, Spirou est repris par Franquin. Et c'est là, à mon avis, le premier âge d'or de cette série, parce que là vont apparaître toute une galerie de personnages vraiment, vraiment fabuleux. Donc,
d'ailleurs, la série en album commence avec les épisodes de Franquin.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Tous ceux qui paraîtront avant, je crois qu'ils sont mentionnés, notamment Radar, le robot et des choses comme ça.
C'est des hors-série.
Mais voilà, mais ils n'apparaissent pas dans la série classique.
D'ailleurs, il me semble que... enfin, en tout cas, sous Robvel, on était vraiment dans les petites histoires comiques. Alors, j'en ai juste lu parmi les premiers qui a feuilleté quelques-uns. Je crois qu'il y a, il y a une édition des histoires de Robvel qui est sortie cette année, justement. Enfin bon, on était moins dans le côté aventureux qu'on peut avoir dans ce qui arrive avec l'arrivée de Franquin, quoi.
C'était plutôt des gags en une planche ou alors en 3-4 planches, des choses comme ça.
JG, il me semble, avait déjà amené un peu de, le côté aventureux, mais c'est Franquin qui a créé toutes les règles modernes, on va dire, du personnage. Donc, galerie de personnages, justement, que Franquin amène.
Oui, alors, dans cette galerie de personnages, il y a donc le marsupilami, la journaliste Sécotine.
Alors, j'ai essayé de présenter chaque personnage en deux mots. Le marsupilami, c'est un animal imaginaire qui vient de Palombie et qu'adopte Spirou et Fantasio lors d'une de leurs aventures.
Qui ressemble vaguement à une sorte de singe à la fourrure jaune à taches noires et qui est doté d'une queue de 7 mètres.
Ouais.
Il y a donc
Sécotine, qui est une journaliste concurrente de Fantasio. Parce que Spirou est journaliste, est devenu journaliste, il est plus groom sous l'époque Franquin.
Oui, tout à fait. Les deux personnages principaux, Spirou et Fantasio, travaillent pour le journal de Spirou, je crois. Ah non, oui. Le journal Le Moustique.
Oui, journal Le Moustique, oui.
Donc il y a Sécotine qui est un peu le prototype de la journaliste chiante.
Oui, mais douée. C'est... Pour l'époque, c'est un personnage féminin qui n'est pas un faire-valoir.
Oui, voilà, qui a un vrai caractère.
Ah, c'est la chiante, hein, mais elle est, dans son métier, elle est douée.
On voit également surgir le cousin maléfique de Fantasio, c'est-à-dire Zantafio, qui apparaît, si je me souviens bien, dans Spirou et les héritiers.
C'est ça, il me semble aussi.
Où ils vont chercher le marsupilami en Palombie. Et puis, à la fin de la période Franquin, apparaît le grand personnage de méchant, car jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de méchant, à part peut-être John Alena et encore.
Oui, qui apparaît dans quelques tomes. Un personnage, ouais, c'est un méchant un peu secondaire, un peu classique.
C'est un qui a repris dans une période ultérieure un personnage qui est devenu un peu plus fort, donc qui apparaît notamment dans Le Repère de la Murène et Spirou des Eaux. Donc je disais, le vrai personnage de méchant, c'est Zorglub, qui est un génie mégalomaniaque, qui est un peu le pendant méchant du comte de Champignac.
Que tu nous as pas présenté, qui est aussi un personnage vachement important. C'est Franquin qui l'a amené aussi, Champignac, je crois.
Donc c'est un personnage qui est apparu dans il y a un sorcier à Champignac.
C'est ça. Oui, ça, donc c'est Franquin. En fait, Franquin, ce qu'il avait amené aussi, c'est toute cet univers de la ville, enfin du village de Champignac, avec le maire, le poivreau local, le comte de Champignac, qui est en gros le savant fou, qui fait plein d'inventions à base de champignons, et qui va être l'ami de Spirou et Fantasio.
Mais le spécialiste de la mycologie ayant créé notamment il y a le X1, X2, X3 qui sont ces espèces de potions qui rendent très fort, très intelligent, très rapide, je sais plus quoi.
Voilà. Et donc, oui, Zorglub est un de ses ennemis de toujours. Ils se connaissent depuis longtemps. Et Zorglub, lui, il veut rendre le monde meilleur en rendant un monde à son image. Et puis, il veut écrire Coca-Cola sur la Lune. Mais bon.
À l'envers.
À l'envers.
Et donc pour cela, il utilise ce qui est sa principale invention, c'est-à-dire Laserglonde, qui permet de transformer, grosso modo, les humains en robots qui obéissent à ses ordres. Ah oui, l'un des effets aussi de Laserglonde, c'est de faire parler tout le monde à l'envers, avec le fameux Ezod Mimixam.
Oui, et vive Bulgroz.
Et vive Bulgroz.
Oui. C'est vrai que ça avait beaucoup apporté à la série, ça, c'est un personnage très très fort. Enfin, Franquin a amené vraiment beaucoup d'éléments très très forts dans la série, et puis quand il est parti, il en a remporté avec lui.
Alors, d'ailleurs, juste un truc. Donc, Franquin, c'est un dieu du dessin, personne,
Oui.
voilà, qui a vraiment, justement, oui, apporté à la fois comment dire, un dessin beaucoup plus rond en même temps plus rond et plus réaliste que dans la période précédente.
Oui, puis très dynamique, plein de petits traits. Donc
Super
c'est
dynamique.
vrai que c'était assez intéressant à ce niveau-là, quoi.
Qui dessinait super bien les animaux.
Oui.
En fait, à la fin de la période Franquin, il y a. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il dessine les deux albums sur Zorglub, donc Z comme Zorglub et l'ombre du Z. Et il s'apprêtait, en fait, à en dessiner un troisième. Ça a été refusé par Charles Dupuis. Ce qui a coïncidé plus ou moins avec la dépression de Franquin, qui a commencé qui a abandonné en fait le dernier album qu'il faisait, qui était QRN sur Bad Zellbourg. Il l'a abandonné à la planche, je ne sais plus, 10 ou 12, un truc comme ça. Et il s'est écoulé des années avant que ça reprenne.
Oui, donc le personnage est un peu en stand-by dans le magazine à ce moment-là, c'est ça?
Il s'est consacré uniquement à Gaston Lagaffe.
Pour revenir un peu sur la période Franquin, donc c'est une période forte hein, qui a marqué enfin tout le monde, même s'il y a eu d'autres auteurs entre-temps, les derniers à chaque fois sont. Enfin, en gros, on a Franquin derrière qui fait peur, quoi. Hein, il faut être là-dessus. Des caractéristiques du principal du Spirou de Franquin, pour toi, serait quoi?
Du Spirou de Franquin, le pour le personnage ou pour l'univers?
Pour le personnage, enfin ouais, globalement, non, les caractéristiques ouais, de sa narration, de ce qu'il raconte, de ses thématiques.
Je sais pas, en fait. Je sais pas, et pour toi?
Et pour moi, bah, moi, il y a le côté, bon, il y a un petit côté écologique, une lutte contre les dictatures aussi, qui est toujours très présent. Un côté inventif, tout le côté savant fou, les inventions scientifiques. Tu le vois avec tout l'intérêt qu'il peut y avoir pour les véhicules, par exemple. Toutes les voitures, tous les véhicules que Zorglob a créés. C'est un peu tous les trucs qui reviennent. Vraiment, la science au service du bien de l'humanité, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans Spirou, en tout cas, il montre un peu le contraire dans Les Idées Noires, mais dans Spirou, la science entre de bonnes mains amène de bonnes choses.
Oui, c'est la science vecteur de progrès, tout ça, tout ça.
Voilà.
Donc ensuite, le Franquin passe la main à Jean-Claude Fournier, qui est notamment le dessinateur de la série Bisu, qui est une très jolie série où Fournier peut exprimer tout son côté poétique, très proche de la nature, tout ça, lui
Son
aussi.
côté breton, quoi.
Breton.
Le côté un peu le bar de Breton.
Avec l'album emblématique de cette période, c'est bien sûr L'Ankou, qui marque aussi une rupture dans le sens où c'est l'une des premières fois où apparaît vraiment un personnage fantastique. qui ne sera pas repris évidemment par la suite. C'est juste un espèce de. C'est vraiment un one shot celui-là.
Oui, il apporte un peu de magie dans Spirou en fait. Enfin, on n'est plus dans la science quoi.
Notamment avec Itokata qui est un scientifique japonais, qui est un ami de Champignac. Alors c'est dans du glucose pour Noémie qui apparaît ce personnage, je crois.
Me semble aussi.
Donc il y a ce personnage, il introduit ce personnage et en fait moi je trouve que c'est que dans la période qu'il a gérée, en fait le dessin de Fournier est beaucoup plus adapté à des choses beaucoup plus poétiques et le Spirou est presque trop réaliste pour lui, je pense.
Bah déjà, Spirou commence à quitter un petit peu son costume de groom typique. Il commence à avoir un pull à col roulé rouge. Franquin avait un peu amené ça, mais là, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un côté plus flagrant dans le travail de Fournier pour enlever le costume de groom à Spirou.
Oui, c'est vrai qu'il abandonne son costume, il en garde les marques et le code de couleur. Mais voilà. Aussi également, il va. Tu parlais tout à l'heure de écologie et parler des dictatures et tout ça. Et Fournier, il s'attaque aussi à ça, notamment dans le tyran et des haricots partout, ce qui est vraiment un diptyque.
Un diptyque, ouais.
Qui est vraiment très bon.
Et qui est son dernier diptyque histoires sur Spirou et Fantasio.
Voilà. Il avait commencé de faire un autre album qui aurait dû s'appeler La Maison dans la Mousse, dont on peut apercevoir, si on cherche bien, quelques pages qui ont été ancrées mais pas colorées.
Ouais, je suis curieux, ça faudra que j'essaie d'aller trouver ça quelque part. Pour toi, le tome fort, donc il a fait 10 tomes hein, de Spirou, enfin non, 9 tomes de Spirou et Fantasio, pour toi, le tome fort de Spirou et Fantasio qu'a pu faire Fournier, c'est lequel ?
Moi, je pense que c'est Lankou. C'est
ouais.
Celui qui reste le plus fort de ce qu'il a fait, même si le diptyque de Codol Tyran est vraiment pas mal.
Et ses thématiques ?
Je
leur pose la même colle.
L'écologie, la lutte contre les dictateurs en tout genre.
L'écologie est très forte. Hein. Il amène dans Tora Torapa, par exemple, il amène des personnages qui sont vraiment au cœur de ça, sur les peuplades qui se font envahir par la technologie, l'industrialisation, et puis la magie. Quoi, tous ces éléments-là qui sont aussi des éléments qui sont très forts dans le travail de Fournier. Ce que je propose, c'est qu'on divise cette jolie chronique en deux parties, parce que je pense qu'on n'aura jamais le temps de tout faire sinon, et que donc on se retrouve d'ici quelques semaines pour finir tout ça. Donc, Cobal, où est-ce qu'on peut te trouver sur l'internet de l'internaute magique ?
Alors, sur l'internet magique, on peut me trouver notamment sur Twitter, donc @Cobal, tout simplement, et également sur le site de mon petit podcast à moi, qui est Radio Rôliste, donc sur radio-rôliste.net, et également de temps en temps sur un autre podcast que j'ai lancé, mais que je ne peux plus participer malheureusement suffisamment, qui est Indie Gamecast sur indiegamecast.net.
Avec tout ce qui se fait un peu dans le jeu vidéo indépendant, c'est assez intéressant pour découvrir des nouveaux types de jeux. Pas les gros blockbusters. Et ben merci beaucoup Cobal, et puis on se retrouve dans quelques semaines pour la suite de ce dossier Spirou et Fantasio.
Salut. Online.
Je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle JL8, enfin JL8 si on prononce correctement.
Mais Pierrick, qu'est-ce donc ?
JL8, c'est un jeu de mots avec JLA. Super
bien ingénu quand même.
Ouais. C'est un jeu de mots avec JLA, la JLA, la Justice League of America. Vous savez, il y a un dessin animé qui passe à la télé. et donc...
Non, voilà. Pas les Tiny Toons. Hein.
Donc, c'est l'équipe du super-héros qui inclut Martian Manhunter, pour le moins connu, Flash, Batman, Superman, Wonder Woman.
Tous les trucs en man, quoi.
Voilà.
Ah non, pas tous, merde.
Voilà.
Last Man.
Et donc, ce qui se passe, c'est que... Là, c'est les mêmes versions 8 ans. Donc, ils ont 8 ans, ils sont tous dans la même école. Et on suit un peu les péripéties et les pérégrinations de ces jeunes qui découvrent la vie et qui ont un peu leurs problèmes. Ce qui est génial, c'est que l'auteur, Yael Stewart, a réussi à rendre la personnalité de chacun des héros, mais dans la version jeune, en fait, ce qui n'était pas évident, je trouve. On les reconnaît tous, ils ont 8 ans. Par exemple, Flash, il passe son temps à courir dans tous les sens et il veut manger. Et donc, par exemple, quand il y a Wonder Woman qui l'invite à un buffet, ce qui se passe, c'est qu'il a un buffet que pour lui. Et puis Batman, il est très malin parce qu'il a deviné que Wonder Woman, en fait, c'était sans doute une princesse d'un autre monde, parce qu'il s'est rendu compte que elle avait une fortune personnelle qui n'était pas cohérente avec l'histoire qu'elle lui avait racontée. Enfin bon, encore, c'est Batman, tu vois.
Tout ça à 8 ans déjà.
Oui, oui, je suis super fort. Et puis il va être mystérieux, Batman. Il va être mystérieux. Il monte sur des promontoires pour avoir l'air classe, pour qu'on le regarde d'en bas, tu vois. Il fait... Oh, tan.
Un petit côté Santa High School.
Voilà, donc il s'amuse beaucoup. Ouais, c'est un petit côté parodique, mais mignon. C'est-à-dire que... Voilà, il est dans la cuisine, il est en train d'essayer de parler. Alors là, pour le coup, il a vraiment pas de micro. Prépare le café, ça va. Donc, petit côté parodique, mais mignon. C'est plutôt bien écrit. C'est drôle, c'est du strip. Pas toujours drôle. Parfois, il joue un peu sur les sentiments, sur les petits problèmes. Tu sais, quand on est gamin, quand on est amoureux, c'est pas toujours facile. Même s'ils réussissent à faire de l'humour, que genre Batman qui donne des conseils de drague à Superman... pour qu'il puisse draguer Wonder Woman. Sauf que c'est Batman, ouais. Il lui dit, si tu veux brancher la fille, faut que tu sois un gros lourd. Tu lui parles pas directement, tu parles à sa copine, tu l'ignores. Faut que tu sois un gros lourd, comme ça, elle est dans ta poche. C'est les conseils de Batman, tu vois. Côté Bruce Wayne.
Ouais, d'une certaine façon, il a pas totalement tort.
Ouais, mais à 8 ans, ça marche peut-être pas aussi. À 8 ans, une approche plus directe, je pense, serait plus efficace. Bref, il y a un style graphique tout en rondeur, tout mignon, moi qui me plaît beaucoup. Il s'est en plus amusé à donner un grain, une sorte de faux grain de vieux papier journaux.
Ouais, ça c'est excellent.
Qui on a l'impression que c'est un peu à l'ancienne et pourtant il a un style très moderne. Je sais pas comment ça marche. J'imagine que DC a autorisé ça pour le côté parodique parce que voilà, je pense qu'il devrait le payer pour qu'il fasse un recueil parce que ça mériterait de sortir en papier. Il y a en plus un arc narratif, on suit vraiment les personnages, il se passe des choses. Il joue aussi beaucoup sur les détails des trucs qui se passent dans la vraie série. Par exemple, à un moment, il décide qu'il faut qu'il fasse un reboot, alors ils vont tous changer de costume. Mais comme finalement c'est nul, ils reviennent aux anciens. tu vois, c'est un peu la critique de la BD.
Justement, ça fait partie des trucs que je voulais te demander. Est-ce que y a de l'aventure entre guillemets dedans, ou est-ce que c'est juste des blagues de cours de récré entre gamins, quoi.
Aventure, c'est un peu limité. Ils ont, alors j'ai pas tout lu encore, hein, mais ils ont leurs ennemis de cours de récré. Tu vois, c'est la Ligue des méchants en fait. Hein. Donc il y a un petit peu d'action, mais ça reste survolé. Hein, on est plus dans du strip et ça se prête pas vraiment à l'action, le strip.
La vache, j'ai fait 15 mètres pour poser une question. Mais c'est de l'humour style intéressant ou Gnome de Troie, quoi?
Plus intéressant que Gnome de Troie, je dirais. Il y a un petit côté qui m'a fait penser à du Calvin et Hobbes, si je devais donner un style dans l'humour. Ça le fait, tu vois. Un petit côté Calvin et Hobbes dans l'humour, c'est-à-dire quelque chose d'un peu sophistiqué. Puis c'est toujours marrant de voir ces jeunes de 8 ans qui sont donc exceptionnels et qui ont des réflexions parfois un petit peu trop vieillottes pour eux. Attention, micro.
Donc, tu trouves que Gnome de Troie, c'est pas très sophistiqué?
Bah, c'est cacaprout, c'est rigolo, mais c'est pas pareil, quoi.
Matt, t'as un compte à régler?
Ouais, je sais pas. Disons que là, c'est une bande dessinée d'humour qui va viser les adultes, alors que Gnome de Troie va plutôt viser un public très très jeune.
Bon, en attendant, le dessin est vraiment super mignon, les costumes sont très bien refaits. Ça a l'air très plaisant à lire.
C'est, enfin moi je sais que c'est une bande dessinée que j'ai découvert il y a peu et que je trouve géniale, donc c'est JL8. Je vous mettrai l'adresse sur le blog parce qu'elle est un peu compliquée.
Et c'est en français ou en ouzbek?
C'est la question que j'allais poser. C'est toutes les pages sont en anglais ou il y en a d'autres qui ont été traduites?
Non, je n'ai pas trouvé de version traduite. C'est en anglais. Il y a peut-être une version traduite, mais
moi j'ai une planche là où il y a même du grec.
Oui, mais ça doit être parce qu'on en parle. Mais voilà, non, c'est en anglais par contre, effectivement, mais c'est pas de l'anglais très 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 complexe. C'est des enfants de 8 ans qui parlent, quoi, faut pas trop en demander.
Moi je dis Anki.
Et les micros étaient ouverts.
Bah ouais, mais il a rien Anki du tout. Je dis Anki, et là tu me fais un gros dans le truc, alors que je dis Anki.
Iron Man 3.
C'est pour qui le café? Iron Man 3. Chut, on tourne.
Alors, ça va, hein. Qu'avez-vous pensé d'Iron Man 3? Quelqu'un pourrait pitcher l'épisode?
Deux répliques de films qu'on sort.
Ouais.
Ouais. Faut trouver. Si vous êtes fort, nous vous dites quel film on a cité.
Quelqu'un pourrait pitcher l'épisode de Iron Man 3.
Ça va, on discute là, s'il te plaît.
Alors, en fait, vous imaginez Iron Man et il vient pour la troisième fois dans la caméra. Ah, mais non, c'est un piège, c'est la quatrième fois. Oula, c'est la plaintième fois en fait, qu'il vient devant les caméras.
Oui, parce qu'ils ont tourné en plein de fois les. Pardon, vas-y.
Donc, c'est l'histoire d'Iron Man qui, après tous les succès que l'on qu'on lui connaît, après toutes les mises au point pardon, de son petit magnifique générateur qui l'empêche de mourir,
après Iron Man 1, où il était trop fort, après Iron Man 2, où il était encore plus fort, Iron Man 3.
Ouais. Et où là il est fort mais pas tant que ça en fait. C'est ça qui est intéressant dans cet épisode.
En fait, d'avoir vu des extraterrestres dans le ciel de New York, ça lui a fait du mal.
Ouais, ça lui a fait beaucoup de mal à la tête et il a un petit peu du mal à s'en remettre. Donc il dort pas beaucoup. Il est content, il est heureux d'être marié à sa chère et magnifique blonde Pepper Potts.
C'est pas marié mais bon maintenant
c'est tout
fait officiellement.
Non, c'est officiellement qu'il se la tape. Et du coup, il passe ses nuits et ses jours et ses nuits, ses jours
romantisme,
ses nuits et ses jours.
Bon bref,
à faire des nouvelles armures.
Oui, et parce qu'il a des cauchemars, il commence à craquer un peu, il est pas bien.
C'est ça. Donc, oh, tu vas me rappeler, Pierrick, toi qui as une belle mémoire, là il en est à la marque combien ?
42.
Marque 42, voilà.
C'est facile, 42.
Mais il ment un Pepper Pot en disant que c'est la 10.
Je crois qu'il vit à 15 ou 16.
Ouais, enfin, il gruge et pas d'un peu. Et donc voilà, il a quand même une sacrée collection d'armures, toutes diverses et variées, avec des petites spécifications.
Et il est confronté à une nouvelle menace.
Oui.
Le mandarin.
Le mandarin, qui est un terroriste.
Le gros méchant, le terroriste qui fait perdre tout
à la Ben Laden, qui fait exploser des gens.
Ouais, alors c'est la Ben Laden version... revu et corrigé côté génétique, côté produit particulier qui te transforme et compagnie, qui te rend de plus fort ou qui te rend de vachement explosif.
Voilà.
Et du coup, il sème la terreur, il peut semer la terreur dans toutes les villes du monde, mais il a choisi, bien évidemment, de cibler les États-Unis.
Et particulièrement Tony Stark, quand Tony Stark lui dit que c'est entre eux et lui. Attention, attention, pas de vannes qui spoil, Thio, je te vois bord du fou rire. Attends, vas-y.
Plus pour
vos maltines, oui, quoi.
C'est de la dynamite.
Ok.
J'ai 8 secondes pour vous dire que là-bas, vos maltines Iron Man 3, c'est de la dynamite.
Bon, globalement, donc on change de réalisateur, c'est Shane Black qui est passé à la réalisation.
Volontiers.
C'est Shane Black qui est passé à la réalisation.
Mais il est toujours.
Shane Black, scénariste de génie.
Non, mais l'ancien réalisateur, il y est toujours.
Il y est toujours, oui, il joue un rôle.
Génie, c'est un film ?
Oui, sûrement, mais lui, c'est le scénariste de L'Arme Fatale,
le scénariste de Génie ou...
Donc, en gros, Shane Black, c'est le scénariste du du bon film d'action des années 80.
Kiss Kiss Bang Bang aussi, non ?
Oui, là, il réalisait, qui est un bon film d'action des années 2000.
Non, qui n'est pas un film d'action.
Oui, qui est une comédie. Bon.
Oui, comédie d'action.
D'ailleurs, c'est marrant, mais quelqu'un m'a fait remarquer que la scène finale faisait beaucoup penser à la scène finale de L'Arme Fatale. Et quand j'ai regardé la scène finale, je fais « Ah, on dirait la scène finale de L'Arme Fatale ». Et à l'époque, je savais pas encore que Shane Black avait écrit L'Arme Fatale. Le coup sur le truc pétrolier.
Sur le tanker, oui.
Ouais. Fin de L'Arme Fatale, oui, oui.
En même temps, je pense qu'il y a beaucoup de films qui se terminent sur un cargo. Hein.
Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu la scène, je fais « Ah tiens, ça me fait penser enfin, ». Le 2, oui, L'Arme Fatale 2.
L'Arme Fatale 2, il faut préciser quand même. Il faut être précis. Quand tu cites, tu dois être pointu quand même.
Précis, pointu, affûté.
Bon, vous qui n'êtes pas forcément des spécialistes d'Iron Man, qu'avez vous pensé de ce film ?
On n'est pas des spécialistes d'Iron Man.
Excuse-moi, à qui tu parles là ?
Je sais pas, vous vous considérez comme des spécialistes d'Iron Man ?
Bien sûr, parce que nous avons vu la
magnifique conférence
du French Kick Movement sur Iron Man. Et maintenant, on est au taquet, on connaît tout.
Au taquet.
Bon, bah alors, qu'avez-vous pensé du film, vous qui êtes des spécialistes au taquet d'Iron Man ?
C'était bien. Je trouve que c'est vraiment une splendide allégorie, en fait, du héros post-moderne. Non, ça le fait, non ?
Oui, ça commence bien. Mais ça manque un peu de chute. Non, c'est vraiment ce qui est intéressant, je trouve, c'est le côté étude du personnage dans sa folie, dans sa décadence intérieure. Le fait qu'il n'arrive absolument plus à se contenter de son bricolage pour se changer les idées et revenir à la normale, le fait qu'il se tape des crises d'angoisse invraisemblables, qu'il a tout pour être heureux dans la vie et que pour autant il a un stress énorme, qu'il a de plus en plus de mal à gérer. Dès qu'il n'est plus dans une armure, au-delà de se sentir pas bien, il se chie dessus. Les crises d'angoisse, c'est exactement ça. C'est de la trouille, mais de la trouille au plus haut niveau. Alors,
je crois que ça s'appelle une crise d'angoisse.
Oui, mais voilà. Donc il y a tout ce côté-là qui est super intéressant. Après, je trouve que le côté justement super production hollywoodienne, on est à fond dans tous les petits ingrédients qui vont faire qu'on va ramasser ultra large auprès de tous les publics, de toutes les tranches
d'âge. Le gamin qui va aider le héros.
On a le petit gamin, on a la petite histoire d'amour, on a le petit baiser, on a l'amour contrarié, on a de la haute technologie, on a de l'action, veux-tu, en voilà.
Moi, le seul truc qui justement est anti-cliché, c'est la copine du héros qui n'est pas potiche.
Alors là, c'est le côté on va aller chercher aussi un public que ça peut intéresser que de voir une femme qui prend le pouvoir, qui se prend une armure, qui va tataner la gueule du grand méchant.
Mais à part les 5 Spice Girls, ça intéresse qui, ça?
Je pense que tu vas nous poser des problèmes, là.
Ok, Mathieu, là, oula, toi, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Ouais.
Donc voilà, bref, ils ont essayé de ratisser le plus large.
Oui, très popcorn, très large.
Je tiens quand même à faire un petit placement produit, moi aussi, parce qu'on le voit pas beaucoup, je trouve, pendant le film. Sun Oracle, merci d'avoir pensé à nous.
Ouais, hein.
Ah, pour un peu, ils ont collé sur des canettes de coca, hein. Enfin, écoute,
c'était déjà le cas dans Avengers.
Hein. Oui, là, on se retrouve quand même dans le garage du môme quand, voilà, je vais pas spoiler tout le film, même si je pense que d'ici la parution de l'émission, la plupart des gens l'auront déjà vu. En tout cas, les gens intéressés l'auront déjà vu. Ou les gens intéressants, je ne sais pas.
Oui.
Enfin, voilà, on en trouve partout, même dans le garage au fin fond de la campagne perdue, quoi.
Oui, surtout que Sun Oracle, tout le monde connaît. Bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Tu veux rajouter quelque chose, Thio? Moi, globalement, c'est un bon film popcorn qui casse pas trois pattes à un canard.
Oh si, il casse des pattes. Ah si, moi je suis pas d'accord là. On passe un excellent moment.
Bah disons que le traitement du mandarin, il fait un peu...
Ah, là on arrive au cœur du sujet, moi je veux pas couper tout de suite. En fait, si j'ai coupé Thio, mais parce qu'on a qu'un micro en fait.
C'est trop bon. Je dis, non, vous me posez une question, je me rapproche du micro, je suis prêt à répondre, et en fait, vous continuez à discuter tous les deux. Alors que, voilà, moi le problème, il y a deux choses voilà, qu'il faut noter.
Ouais, je suis d'accord,
merci. C'est d'une part un énorme problème sur le mandarin qui en fait a perdu tout l'intérêt qu'il avait dans les comics.
Enfin, il a tout perdu même.
Bah, d'un autre côté, il était plus vraiment au goût du jour comme personnage.
Oui, mais dans les comics, il y avait un vrai méchant, quoi.
Ouais.
Là, sérieusement.
On va spoiler.
Bon, mis à part que c'est Ben Kingsley que je suis fan, mais sinon.
Yeah. Ouais, oui, ça fait un peu mal pour les fans.
Par contre, voilà, bon, sinon c'est un très bon film popcorn, je suis d'accord avec toi. Et surtout, attendez bien la fin de la bande. Parce que c'est. Voilà, moi, c'est vraiment le moment où j'ai peut-être le plus ri.
Ah ouais, j'ai trouvé ça un peu pas terrible, mais bon.
Pathétique, on dit.
Disons que voilà.
Ah
que,
non, c'est excellent.
Disons que d'un point de vue global, jusqu'ici, les fins, ce qui est après le générique, donc dans toutes les séries Marvel, tous les films Marvel qu'il y a eu, il y avait un truc à la fin. C'était un élément qui faisait avancer ce qu'ils appelaient le projet Avengers. Mmh. Il y avait ça une avancée très très courte dans le projet Avengers. Là, ils sont dans la phase 2.
Là, ils sont obligés. Les Avengers existent déjà.
Voilà. Là, ils sont dans la phase 2. C'est-à-dire qu'ils devraient, pour moi, annoncer, commencer à poser les petites pierres pour te dire, hey, dans Avengers 2, il y a ça qui va rentrer en place, etc.
Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas mettre de petites pierres, étant donné qu'à la fin d'Avengers 1, tu sais déjà qui est le big méchant du 2.
Bah, ils pourraient commencer à faire jouer avec ça. Voilà. Alors, ça pourrait être le big méchant du 3 aussi, hein, tu sais. Ils ont déjà prévu le 3, donc.
Mais tu mets des petits cailloux que jusqu'au 2, c'est pas.
Enfin bref, un bon film quand même sympathique à aller voir, même si effectivement vous n'allez pas vraiment vous casser le cerveau.
Mais c'est pas le but en fait. Hein. Quand tu vas voir un Iron Man, tu vas pour manger du popcorn, boire un coca
et que ça pète.
C'est un bon moment et que ça pète dans tous les sens. En plus avec forcément du bon rock.
Ah,
ça manquait de rock, je trouve par contre.
Ah non, ça va.
Ouais, ça manquait de rock.
Ah non, ça va.
Ah, si.
Au bon moment, il y a AC/DC.
Yeah.
Ça manquait de rock.
Ah, c'était bon.
Eh ben, je crois que nous avons fini cette émission.
Enfin.
Ouais, il était temps. On a passé beaucoup de temps sur ce Iron Man.
Oui. Tout compte fait. Tu vois, au départ, on n'était pas forcément ultra emballé par en parler.
Ouais, mais bon.
Et
ouais,
on va recommencer.
C'est un peu facile.
On ne recommence pas.
Bon, eh bien.
Sur on n'a pas assez parlé du mandarin, je crois.
Merci de c'est nous vrai, avoir écoutés.
Jaune du mandarin.
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Je vous rappelle que la page a changé de nom. C'est facebook.com/lavoixdesbulles.
Ça marche sur un chien ou quoi?
Il y a Thio, je sais pas ce qui lui arrive.
Tu as queené de la godasse, mais genre, j'ai écrasé un clef, quoi.
Je l'ai pas entendu. Donc, sur cette phase de bonne humeur, je vous dis à bientôt et dans 15 jours, ciao.
Bisous, bye bye. À vous, le studio.
Ça, c'est
une 1h42 d'émission dans 1h42 de pan. Pan. Putain, j'ai... Ouais, le splash page a duré 2h30, quoi. Ouais, mais c'est pas ce que j'ai dit. Je tire lentement, faut que je recharge à chaque fois, j'ai qu'un coup, moi.
Voilà. Bon, genre ce jingle.
Pan.
De toute façon, je pense qu'on va pouvoir le faire plein de fois parce qu'on va se planter, c'est sûr.
Pan.
Vous voulez quoi? On fait une répète et ensuite on enregistre.
Non, on enregistre de suite.
Non, la première prise est toujours la meilleure.
C'est ça qui nous fait le plus les cons, en fait.
Donc 30, 30, 20. Je savais qu'on se plante pas, que je sache.
Non, mais attends, tu fais donc 1, 2, 3 et t'y vas ou 1, 2 et t'y vas?
Bon, genre ce jingle. Super. Bon.
Ça, c'est fait.
Bien joué. Quand ça part sur un fou rire, c'est mal parti. Hein.